qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris, tech, business, lifestyle, culture, sport, gaming ou news. C'est exactement ce que nous découvrons dans Offcast, le off du podcast français et francophone. Nous partons 2 à 4 fois par mois dans les coulisses du podcast français, à la rencontre des acteurs de cet écosystème véritablement effervescent. Dans chaque épisode d'Offcast, vous découvrirez le profil, la personnalité et la passion du ou de la host, mais aussi son parcours, ce qui l'a amené à créer son podcast, comment il ou elle trouve ses sujets, ses invités, sa vision du développement d'une communauté autour de ce format, et ses conseils pour découvrir, comprendre et adopter l'esprit podcast. Je suis Raphaël Grieco, grand fan de podcast, et je suis également à l'origine de l'initiative Podcast Makers, qui réalise les podcasts Offcast. Et oui, Podcast Makers, c'est la première communauté française 100% indépendante de podcasteurs passionnés. Si toi aussi tu es host ou si tu produis un podcast existant, rejoins cette toute première communauté réservée aux hosts et éditeurs de podcasts sur www.podcasts.com. Avant d'entamer ce nouvel épisode, un dernier mot sur le format d'Offcast. Offcast est résolument un podcast différent et en perpétuel renouveau. Pour chaque épisode, un ou une nouvelle host, membre de la communauté Podcast Makers, viendra à la rencontre d'un ou d'une invitée podcasteur, membre également de Podcast Makers. Et maintenant, sans plus tarder, place à ce nouvel épisode d'Offcast. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alexis Kovalenko, qui est créateur et animateur du podcast Contournement. Salut Alex, comment vas-tu ?
Salut Raph, bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation, d'autant que je ne suis pas très actif en plus en ce moment dans Podcast Makers, donc ça me fait plaisir.
Bah, c'est un bon moyen pour te relancer.
Absolument.
Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui, parce que bon déjà, on avait échangé, c'était en août, je crois, cette année, et dans l'autre sens, dans ton podcast Contournement, que j'avais déjà écouté assez régulièrement, et j'aime beaucoup le format, l'ambiance, l'humeur qui s'en dégage, et j'apprends toujours beaucoup quand j'écoute les podcasts Contournement. Et aujourd'hui, l'idée est vraiment de savoir quelle est l'origine de Contournement, et plus globalement, comment tu utilises Contournement dans ton initiative No Code France, qui est la première communauté autour du No Code en France, comme très éponymement le nom de la communauté l'évoque. Donc voilà un peu l'idée aujourd'hui, et comme j'aime bien faire, c'est proposer aux invités de se présenter eux-mêmes. Comme ça, j'évite les mauvaises historiques et les oublis.
C'est toujours plus simple. Ça permet de rentrer un peu dans le podcast. Écoute, moi je m'appelle Alexis, j'ai 38 ans. Depuis quelques jours d'ailleurs, c'était mon anniversaire.
Bon anniversaire en retard.
Merci. Moi je travaille dans la tech depuis une quinzaine d'années dans des rôles techniques. Enfin, voilà, j'ai un background technique, surtout des rôles de CTO. J'ai géré une agence web pendant 4 ans, c'était ma dernière expérience que j'ai quittée il y a 2 ans exactement d'ailleurs, puisque c'était pas longtemps avant mon anniversaire. Donc c'est plus facile à se souvenir. Et depuis, j'ai pris un peu de temps pour moi, et puis j'ai fait diverses choses, et notamment j'ai lancé un projet. Alors en fait, donc c'est un peu confusant, mais la société et le podcast s'appellent pareil, savoir Contournement. On n'a pas été très original quand on a choisi le nom du podcast. Et donc c'est un projet qui a commencé il y a 1 an et demi, qui est autour de la démocratisation des outils no-code. Je pourrais expliquer un peu plus ce que c'est que ça pour si les gens ne sont pas familiers. Moi, j'ai l'impression que maintenant tout le monde connaît le no-code, mais je suis un peu dans la bulle. Mais en gros, l'idée derrière ça, surtout, c'est de démocratiser l'accès à la production de contenu numérique, de produits numériques, j'ai envie de dire, de plateformes, de sites web, d'applications mobiles, et puis aussi un peu de voir comment on peut utiliser tous ces outils pour être plus productif, pas dans le sens travailler plus comme des forcenés, mais travailler mieux peut-être pour travailler moins, je sais pas, voilà, un peu tous ces trucs d'automatisation, tout ça, ça me passionne, enfin, ainsi que mon associé. Voilà, donc on est très porté sur ces sujets-là. Et dès le début, en fait, du projet, on a fait 2 choses, on a fait une communauté et un podcast, principalement. Enfin, on fait pas mal de choses différentes, je sais pas si tu veux que je revienne là-dessus maintenant.
Oui, on va revenir là-dessus, clairement. Et peut-être juste avant d'entrer dans le détail de Contournement, donc tu dis que le projet est né il y a à peu près 1 an et demi et que tu as un background technique. Qu'est-ce que tu faisais peut-être plus spécifiquement avant pour qu'on comprenne l'évolution de ton parcours qui allait vers je crois me souvenir, vraiment la gestion de projet vraiment de dev, donc du hard coding. Et peut-être si tu peux nous expliquer avec 1 ou 2 exemples la différence entre les projets techniques que tu faisais avant et les projets techniques que tu promeus maintenant avec le no-code pour qu'on comprenne l'accessibilité que le no-code permet.
Ouais, bah écoute, moi à la base je suis développeur, hein, donc moi j'écris beaucoup beaucoup de code depuis que j'ai 15 ans. J'ai travaillé dans la tech comme développeur, puis comme lead développeur, puis comme CTO. Et ma dernière expérience, j'ai géré une agence web dans le cadre, en fait, dans le contexte d'une boîte un peu plus grande qui était un centre de formation au développement, qui s'appelle Simplon. C'est un projet social où l'idée, c'était de former des gens éloignés de l'emploi à devenir développeurs. Voilà, pour essayer de... Voilà, ça part d'un principe simple, hein, c'est qu'il y a pas mal quand même de demandes autour des métiers du numérique et du dev en particulier. Et puis, il y a pas mal de gens aussi au chômage, donc comment on peut réconcilier ça? Donc ça, c'était le projet de Simplon. C'est toujours, hein, d'ailleurs, ça marche très bien. Et moi, j'ai rejoint ce projet-là pour monter une agence web à l'intérieur où on recrutait des anciens élèves et donc les aider un peu à parfaire leur formation et aussi leur donner une première expérience pro parce qu'il y avait des gens qui étaient vraiment éloignés, qui étaient, je sais pas, chauffeurs avant ou alors qui étaient des décrocheurs scolaires, qui n'avaient pas de diplôme. C'est très dur, en fait, d'accéder au métier de la tech en réalité. Hein, enfin, ça va pas être une surprise ce que je vais dire, hein, mais il y a très peu de diversité. C'est quand même globalement des bacs plus 5, des hommes blancs, black bac plus 5, qui vont accéder à ces métiers-là. Donc il y a un vrai enjeu, il y a beaucoup de discrimination, et donc nous on voulait essayer de combattre ça en donnant une première expérience à ces gens qui sortaient de nos formations pour leur donner plus de chances de trouver un boulot, quoi. Voilà, et on travaillait sur des projets, on a fait plein de choses différentes, des sites web très classiques, des applications mobiles, des plateformes. On avait un enjeu d'essayer de travailler un max pour des assos, mais aussi on a travaillé pour des grands comptes. Et tout ça effectivement... en code, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, moi c'est vraiment ce que je sais faire, hein. C'est vraiment accompagner des développeurs, j'adore ça, bosser avec des développeurs, méthodologie agile et compagnie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin déjà c'est pénible de faire une agence, c'est pénible, les clients sont pénibles, c'est hyper, enfin je suis désolé, hein, j'ai un peu, mais franchement ça m'a vraiment un peu usé, et ils sont exigeants. Voilà, on va dire, ils sont exigeants, et cette exigence des fois devient un peu difficile à gérer. Enfin voilà, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre de faire le prestataire. Et donc, j'ai aussi vu une opportunité depuis quelques années autour, enfin, c'est surtout mon associé hein, d'ailleurs, qui était aussi le cofondateur de Simplon, Erwan, autour de ces outils no-code. Et donc, je m'y suis intéressé un peu plus et j'ai vu l'opportunité, en fait, pour plein de gens, plein de clients, de plus avoir à passer par des agences pour se lancer, au début en tout cas, hein, parce qu'il y aura toujours besoin de développeurs, hein, loin de dire que ça va changer. Mais pour se lancer, on peut faire des prototypes, on peut faire des MVP, là, les fameux Minimum Viable Product, avec des technologies qui aujourd'hui sont matures, des outils comme Bubble, comme Webflow, enfin il y en a plein maintenant, qui permettent de faire des choses super et qui suffisent largement pour se lancer, quoi. Parce que souvent, les gens veulent faire des usines à gaz, trucs comme ça. Quand ils ont une idée, ils disent « Ok, je vais faire le prochain Airbnb » ou des trucs comme ça. Et en fait, souvent, ça peut commencer par des choses très simples pour essayer de conquérir son marché, enfin même pas conquérir en fait, pour tester son marché, tester son appétence, et ça peut se faire avec des outils no-code, quoi. Donc voilà, c'est vraiment donner l'accès à ces technologies aux gens en général.
Au départ, chez Simplon, j'imagine, enfin si je comprends bien, la dimension inclusive prenait plutôt une définition de retour à l'emploi et d'aider à la diversité des profils, et le no-code en fait va encore plus loin, si je comprends bien, en permettant vraiment à tout type de personnes intéressées par la création de produits digitaux, de se lancer. Donc on va encore plus loin dans l'inclusion, puisque on va au-delà des aspects physiques, on va au-delà des aspects de statut professionnel, mais on va vraiment peut-être le scope le plus large qui permet à tout le monde en fait de se lancer dans un produit digital. Donc c'est vraiment plus large que l'inclusion.
C'est ça.
En fait.
Après, c'était deux enjeux différents, mais ce qu'il faut savoir, après mon associé en parle beaucoup mieux que moi, mais la vision à la base qu'il avait pour Simplon, c'était quand même que en 2012-2013, il y avait des technologies, alors bon, à l'époque, pas du tout de no-code, mais des technologies de code beaucoup plus accessibles, des frameworks comme Ruby on Rails, comme Meteor, permettaient en fait d'aller beaucoup plus vite dans son apprentissage du code et dans sa création d'outils. Par exemple, le Wagon, qui est une formation au code aussi, qui utilise toujours Ruby on Rails, bah, en 9 semaines, à la fin, tu sais faire on va dire un clone d'Airbnb, quoi. Voilà, et ça, c'était pas possible avant ces années autour de 2010-2012, parce que le code était complexe, c'était peu accessible, le web n'était pas le même qu'aujourd'hui. Voilà, donc il y avait cette idée-là déjà, mais ça s'est transformé quand même plus sur une notion de professionnalisation et que les gens trouvent un travail. C'était plus forcément le sujet qui puisse lancer des projets numériques avec Simplon, mais plutôt qui trouve un travail. Tu vois, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu différent. Nous, on veut donner l'accès à la création à tout le monde. Par contre, aujourd'hui, pour l'instant, on ne promet pas encore qu'il y a un travail derrière avec ces outils no-code. On pense que ça va venir. Très franchement, on voit quand même des signes. C'est une vague qui arrive. Même si des gens ne veulent pas forcément le voir, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le code qui est roi et tout le monde doit apprendre le code. Mais voilà, c'est un petit peu deux enjeux différents, mais qui à la fin, j'espère, vont se regrouper pour que voilà, on puisse avoir accès à ces outils professionnellement, personnellement, et se saisir vraiment du web, quoi, parce que c'était le but à la base, hein, c'est quand même quelque chose qui doit être le plus démocratique possible, quoi.
Tu as cité quelques exemples d'outils, notamment Bubble, Webflow, mais peut-être pour rester encore un tout petit peu sur l'historique et le contexte, pour qu'on comprenne bien ce qu'est le no-code pour ceux qui sont les moins familiers. Ça date de quand en fait? Est-ce qu'il y a déjà une origine qui est plus lointaine que les outils dont tu parles? Est-ce que les quelques outils qui étaient déjà là pour faciliter l'accès à la réalisation de projets, j'ai envie de dire, digitaux, et qui sont en fait un peu dans l'inconscient collectif aujourd'hui? Pour qu'on comprenne bien, peut-être encore plus que on en parle vraiment beaucoup aujourd'hui, mais en fait l'origine est un peu plus lointaine
Bien sûr.
que le côté médiatique actuel.
C'est ça, aujourd'hui, c'est une étiquette, finalement, ce mot no-code, qui d'ailleurs ne fait pas consensus hein, dans la communauté. Hein. Les gens qui parlent qui préfèrent parler de programmation visuelle, enfin bon, c'est tout un débat. Pas forcément rentrer là-dedans, mais. Les origines, elles sont assez simples. Hein. Il y a un consensus là-dessus. Par contre, c'est de dire que c'est le tableur, finalement, qui est un peu le premier outil no-code. 1979, il y a un outil qui s'appelle VisiCalc qui est né. Et en gros, c'est la première interface graphique qui permet de faire des choses qui, auparavant, étaient réservées à des développeurs. C'est-à-dire que, auparavant, les comptables, soit ils faisaient leur opération sur papier, soit ils donnaient à des développeurs qui faisaient du code informatique pour faire toutes les additions, je sais pas, ce dont ils avaient besoin. VisiCalc, ça donne une interface graphique où le comptable lui-même, il va pouvoir rentrer ses données, mettre ses formules, faire les opérations. Donc c'est vraiment ce truc-là. Puis après, il y a une évolution, il y a l'arrivée de l'interface graphique. Bon, après, ça c'est entre Windows, Mac, enfin voilà, premier Apple 2, etc. Jusqu'à, après, peut-être certains outils que les gens vont connaître à la fin des années 90. FrontPage de Microsoft, Dreamweaver. Qui est un outil de enfin, Macromedia puis Adobe. Voilà, donc ça, c'est ses premiers déjà à la fin des années 90. En fait, le web était très différent, donc on pouvait faire beaucoup moins de choses avec le web, mais il y avait déjà des éditeurs graphiques qui permettaient de faire des sites web sans écrire de code. Il y avait aussi même des outils en ligne, GeoCities, qui permettaient de faire des sites, les héberger. Enfin, voilà, mais c'était très différent parce que c'était beaucoup moins accessible et c'était beaucoup moins puissant dans un sens. Tu vois, je veux dire, tu faisais ton site avec Dreamweaver. Ça faisait des graphismes, où il y avait Flash aussi qui permettait de faire des choses animées, bah, tu devais toujours les héberger. Donc tu avais toujours une petite complexité technique quelque part, quoi. C'est pas comme aujourd'hui, tu vas, tu ouvres Wix, c'est pas mon outil préféré, mais c'est vrai que, je veux dire, 10 minutes après, tu peux avoir un site web en ligne, quoi. Donc.
Et puis l'arrivée du mobile a aussi bouleversé pas mal d'usages et les outils précédents peut-être n'étaient pas adaptés puisqu'il n'y avait pas de use case et il n'y avait pas le hardware qui nécessitait
Non,
que ces
clairement.
outils.
Puis il y avait pas le web n'était pas responsive hein, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, je veux dire, la technologie même n'existait pas dans le HTML, le CSS. C'était pas prévu effectivement pour du mobile, quoi. Enfin, c'est drôle quand on regarde les sites anciens où c'était toujours souvent collé à gauche. Tu vois, tout ferré à gauche. Et puis voilà, plus l'écran s'élargissait, plus tu avais une marge sur le côté. Et puis après, on a commencé à centrer les sites. Enfin voilà, c'est hyper intéressant hein, l'évolution. Ouais.
Ouais, le site était ancré dans ses mesures rigides, quoi, dans
Ouais,
ta
et ça,
page.
exactement. Ouais. Si tu avais la chance d'avoir un écran un peu plus grand, bah, ton expérience était quand même beaucoup moins bien. Ou s'il était plus petit, ah, c'est encore pire.
Et donc, du coup, il y a 1 an et demi, tu as lancé Contournement. Tu as dit que tout de suite, l'idée était de créer une communauté et un podcast. Pourquoi tu as décidé de lancer un podcast? Et puis, quel était l'objectif de ces podcasts que tu as commencé à enregistrer et à diffuser dès la création de Contournement?
Bah, honnêtement, il y avait vraiment, enfin, ça va peut-être être bizarre de dire ça, mais il n'y avait pas d'objectif. C'est vraiment, je l'ai fait parce que j'écoute des podcasts depuis longtemps, que j'adore ça, que je suis vraiment passionné. Là, je me suis dit, ok, j'ai un sujet qui est intéressant où il n'y a pas de podcast. Alors, si, il y avait peut-être un objectif, je me mens un peu moi-même quand je dis ça, mais peut-être d'occuper le terrain. Mais vraiment, c'était voilà, de se faire plaisir. À la base, le premier épisode, on l'avait enregistré avec une amie avec qui on parlait depuis longtemps de faire un podcast. Puis bon, après, finalement, c'était quand même, en termes de logistique, beaucoup plus simple à faire seul. Au début, mon associé aussi devait participer. D'ailleurs, il participe au premier épisode. Voilà. Mais finalement, c'était un peu ça. C'était un side project, j'ai envie de dire, du projet principal qui était de faire des formations aux outils no-code. Et en fait, assez vite, je me suis dit, OK, c'est l'occasion de rencontrer des gens intéressants. Finalement, c'était... assez vite, en fait, on a deux types d'épisodes, on va dire. Et ça commence à... On a un type d'épisode où on interroge des experts sur des outils. On fait des épisodes thématiques sur des outils. Et puis là, on commence à avoir un peu fait le tour des outils. Et c'est souvent des épisodes sympas, mais pas forcément, je trouve, les meilleurs. Et surtout,
des épisodes de faire, plutôt fonctionnels.
Ouais, un peu technique, un peu, ouais, voilà, où on parle de l'outil, ce qu'on peut en faire, tu vois, c'est toujours focus.
Showcase sur de l'outil.
Ouais, voilà. C'est bien, les gens apprécient, mais moi je préfère maintenant faire des épisodes inspirants, c'est-à-dire interroger des gens, comme on a pu le faire ensemble par exemple, des gens qui ont fait des choses avec des outils no-code. Et encore plus quand ça peut être des gens qui ont... Enfin, j'aime bien quand il y a des backgrounds très variés. Des fois, tu vois, finalement, là, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à interviewer des gens qui ont un background tech. Parce que vraiment, ce que je voulais, c'était des gens qui soient le moins tech possible, tu vois. Parce que je trouve que ça fait la démonstration, en fait, de ces outils, quoi. De se dire, OK, pas développeur, mais t'as fait une appli que t'as lancée sur Product Hunt, tu vois, et c'est cool. Ou plein de gens, on a des gens qui étaient... je trouve pas d'exemples. On a forcément des gens qui sont un peu dans la tech, mais des gens qui vendent des panneaux solaires, tu vois, enfin, plein de choses... Et ça, j'ai envie, tu vois, de creuser ça.
Comment le no-code a apporté une nouvelle dimension à leur projet de manière
qu'ils ont
efficace
permis de...
et rapide.
Exactement. Ou qu'ils ont pu lancer quelque chose dont ils rêvaient. Tu vois, là, par exemple, on va avoir beaucoup, à mon avis, en 2021, de super use case, puisqu'on a accompagné plein de gens cette année. Cécile, qui est kiné, tu vois, et donc, bah voilà, elle a un job, mais elle avait envie de faire une appli pour aider les gens à... tu vois, résoudre un peu leurs problèmes de dos, tu en es tous mal installés sur nos chaises, surtout là, on travaille à distance et tout. Voilà, une petite appli qui te rappelle comment faire des bons mouvements, trucs comme ça, et ça, je trouve ça génial, tu vois, parce que il y a quelques années, bah, elle n'aurait pas pu faire ça, quoi, je veux dire, pas envie d'investir de l'argent là-dedans. Et tu vois, en plus, les gens se trouvent souvent une passion, ils apprennent des compétences. Peut-être que, tu vois, si son appli, bah, s'il a envie de faire autre chose qui n'a rien à voir avec kiné, peut-être, bah, elle pourra le faire, quoi. Demain, elle a acquis ces compétences-là. Donc voilà, ça c'est vraiment maintenant un peu le focus. Mais tu vois, au début, ça nous a, tu vois, dans le quatrième épisode, je crois, on a pu interviewer Charles Thomas de Comet, par exemple. Donc c'est une super histoire de start-up. C'est un peu le, je sais pas comment dire en français, le poster child, tu vois, du no-code. C'est un peu le...
Une success story.
Ouais, voilà, la success story. Et donc, bah, si j'avais pas de podcast,
l'image d'Épinal,
en plus... Voilà, super, voilà. Merci pour la bonne traduction française. Alors, ça, c'est un truc auquel on tient, on essaie de ne pas faire trop d'anglicisme et de jargon. Donc, l'image d'Épinal, je retiens, il faut que j'utilise plus souvent. Mais ouais, tu vois, je veux dire, pourtant, on avait trois écoutes, hein, à l'époque quand je lui ai envoyé un message, mais le fait de lui dire, bah, on a un podcast, je viens t'interviewer pour le podcast, on a pu passer une heure ensemble, c'est un super épisode qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, était numéro 1. Et c'était... Sinon, j'aurais pas pu le rencontrer, tu vois, je lui ai envoyé un message pour lui dire, bah écoute, nous on fait du no-code, on sait que t'as fait, vous avez lancé votre boîte grâce à ça, est-ce que ça te dirait qu'on passe une heure ensemble à discuter? Ouais, tu vois, je pense que ça aurait été difficile, même s'il est très sympa, tu vois, le mec est super occupé, enfin... Donc voilà, donc ça c'était un petit peu le truc que j'avais en tête. Donc au début, on a eu comme ça des gens très intéressants. Après, une des limites un peu qu'on a, c'est qu'on tient à le faire en français, comme tout ce qu'on fait, pour l'instant en tout cas. Et donc ça nous coupe d'une grande partie évidemment de la communauté no-code qui est américaine. Et quand je dis que ça nous coupe, ça nous coupe en termes d'invités. Hein. Parce qu'en termes d'audience, voilà, hein, comme je disais, moi à la base je le fais vraiment par passion. Je suis presque surpris maintenant qu'il commence à y avoir pas mal de gens qui écoutent, en tout cas dans mes critères. Surtout des gens qui me disent « ouais, j'ai binge écouté tes épisodes et tout », et ça me fait un peu halluciner parce que je suis, moi à la base vraiment je faisais ça comme ça, quoi. Mais je suis content, maintenant ça me motive et on essaye de monter en qualité, d'avoir...
Tu viens de dire « binge écouté », hein, c'est du franglais.
Ouais, mais je sais mais c'est parce que les gens me disent ça comme ça, tu vois, mais je sais pas comment dire. Binge, on n'a pas ce mot en français, ce truc de...
Jusqu'à épuisement.
Ouais.
Ok. Et non, mais c'est ce choix du focus géographique, est-ce que tu penses que c'est un choix qui va vraiment s'inscrire dans l'ADN de contournement, ou est-ce que tu penses qu'à un moment donné, certains signaux de la communauté ou que toi tu as observé extérieur vont te faire évoluer dans ce choix géographique. Parce qu'en effet, il y a les. Si on peut appeler ça de la compétition, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup d'acteurs de l'écosystème no code aux US. Je pense notamment à MakerPad, non ? Est-ce que c'est un bon exemple ?
Ouais, bien sûr. Ouais.
Donc, en effet, comment, en étant jeune, en ayant un an et demi, enfin, moins de deux ans d'existence, comment rivaliser avec eux qui ont aussi accès à tous toutes les figures les plus connues du monde du no code, des super entrepreneurs, des super founders ? Moi, je pense que ce choix géographique, il a beaucoup de sens, puisque une démocratisation, tu dois la faire, selon moi, step by step. Et pour évangéliser, il faut vraiment parler, selon moi, à une population, à une niche, à une persona très, très spécifique. Et cette persona très spécifique, ça peut être identifiée par la langue dans un premier temps.
Et bah moi, en fait, tu as raison sur le point de la démocratisation, puisque comme je le disais, hein, dès le début, c'est vraiment un enjeu. Et nous, on ne veut pas que ce qu'on fasse, ça soit cantonné au milieu des startups. Tu vois, c'est-à-dire, si on faisait un truc en anglais, tu vois, comme The Family, par exemple, tous leurs événements sont en anglais. Ils s'en foutent, ils sont à Paris, tu vois, bon, ils n'ont plus leurs super locaux, mais tu vois, ils s'adressent qu'aux startupeurs parisiens, on va pas se mentir. Et nous, on veut, c'est pas qu'on veut faire l'inverse, c'est que si on parle de démocratisation, bah, la démocratisation, c'est aller trouver quelqu'un au milieu de la France, tu vois, donc déjà géographiquement, partout et pas que dans les capitales, etc. Et ça, c'est le passage en ligne là, qu'on a fait pendant le confinement, le premier confinement, qui nous a vachement aidé là-dessus, à toucher plus de gens partout. Mais c'était vraiment une volonté, quoi. Parce qu'en fait, à la base, bon, je ne l'ai pas précisé, mais on faisait des formations en physique. Donc en plus, ça nous coupait. Tu vois, on pouvait faire que des trucs à Paris, quoi. Ou alors se déplacer. Et donc voilà, au moins par le podcast, bah, on peut toucher un peu tout le monde. Et clairement, on veut apporter ces outils-là partout où ils ne sont pas déjà, quoi. Tu vois, et s'adresser qu'aux start-upers, ça ne nous intéresse pas trop. Donc on tient à ça, en français, sans jargon. Et certes, ça nous... tu vois, en fait, c'est toujours on se dit toujours, ok, si on fait un truc en anglais, on peut toucher le monde entier. Déjà, un, comme tu dis, t'as plus de concurrence. Et puis en fait, déjà, quand c'est pas ta langue native, c'est toujours pas toujours aussi bon, tu vois. Je parle bien anglais, j'ai vécu 2 ans à Londres, mais voilà, je suis quand même plus à l'aise en français. Tu vois, là, l'échange qu'on a, on l'aurait en anglais. Il serait moins fluide, on ferait moins de blagues, tu vois. Enfin, donc... ouais, c'est, je sais pas, il y a un tout, tu vois, on se sent plus naturel, plus légitime en français. Et moi, en plus, j'ai une autre expérience. Il y a 10 ans, j'ai essayé de lancer une start-up. C'était un magazine en ligne sur le voyage qu'on a fait en anglais. Et en fait, c'était hyper dur, quoi. C'est-à-dire que, du coup, effectivement, on touchait des gens un peu partout. Par contre, on en touchait pas beaucoup. Alors qu'en France, on voyait des blogueurs qui faisaient des trucs franchement moins quali que nous. Enfin, je suis désolé, mais c'est vraiment objectif. Et qui avaient des super audiences, tu vois, parce que bah, ils avaient leur audience naturelle autour d'eux en France. En termes de SEO, c'était vachement plus simple. Ils arrivaient à être classés, tu vois, sur des pages Google. Enfin, et donc nous, tu vois, cette expérience, elle m'est restée un peu... C'est pas qu'elle m'est restée en travers de la gorge, c'était passionnant, ça fail, mais j'ai appris plein de choses. Mais je me suis dit, si je relance un truc, je le ferai en français. Et après, on verra, tu vois. C'est jamais trop tard pour passer en anglais, je pense, s'il y a besoin. Mais je pense, voilà, j'ai pas non plus, c'est une question d'ambition finalement. Tu vois, ce truc de se dire, en anglais, je peux avoir le monde entier. Ouais, franchement, si déjà on a la France, on sera content. La France, la francophonie, hein, parce qu'on parle de France. Ça, c'est un petit peu un des trucs qui est un petit peu dommage avec le nom qu'on a choisi collectivement là, pour le Slack, qui s'appelle No Code France. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la francophonie. Il y a des Belges, il y a des Suisses. Et puis, plus en plus, des gens aussi qui viennent... du Maghreb, tu vois, d'Afrique, et j'aimerais bien qu'on continue là-dedans, quoi. Donc en plus, en réalité,
le Québec aussi, ça peut être un premier pas vers
absolument.
Une
on a quelques clients, absolument. Voilà, donc ouais, je sais pas, je peux pas te répondre, tu vois, peut-être qu'un jour, évidemment, on l'a en tête, on aimerait bien passer en anglais, mais
ouais, non, c'est très clair. Et donc tu parlais de cette communauté que vous voulez justement diverse, parce que vous avez au premier plan de votre initiative la démocratisation. Tu donnais aussi l'exemple d'une kiné. Est-ce que tu peux nous parler de ta communauté ? Comment tu l'as construit ? Qu'est-ce que tu entends de ta communauté ? Qu'est-ce qu'elle te dit ? Et comment tu l'as construit, en fait, par rapport au feedback que tu as de toutes ces personnes qui vous rejoignent, puisque vous êtes maintenant... tu peux peut-être nous dire la taille de la communauté, mais vous êtes en quasiment 2000, notamment dans le Slack.
Plus de 2000, ouais.
Plus de 2000.
Ouais, alors en fait, donc la communauté, on va dire qu'aujourd'hui, c'est quand même globalement le Slack, même s'il commence à y avoir des petites initiatives autour. En fait, la communauté, pour faire un historique rapide, donc voilà, dès le début, j'ai créé le Slack. Parce qu'en fait, notre stratégie, donc à la base, on voulait faire des formations physiques. Pour résumer en deux mots, le projet initial de contournement, c'était de faire le wagon du no-code, donc un bootcamp autour du no-code, 9 semaines, voilà, assez quali, etc. Et puis après, le répliquer, démocratiser comme ça, quoi. Mais tout de suite, on s'est dit, dans cette volonté de démocratisation, bah, on va faire une communauté, on va faire du contenu gratuit sur YouTube et puis ce podcast. Donc la communauté, à la base, elle était constituée des gens qu'on rencontrait dans des événements physiques. On faisait des meet-up, etc. À la fin, on leur proposait de s'inscrire, de rejoindre le Slack. Donc ça, forcément, ça a une croissance assez faible, on va dire. On a commencé en septembre jusqu'à la fin de l'année. C'était pas évident, j'ai bien ramé tout seul, à parler tout seul, à essayer d'animer tout seul, à avoir les gens un par un, mais on a eu quand même des gens. Juste avant là, qu'on se parle, j'ai interviewé justement quelqu'un qui était un des premiers membres de la communauté. Et voilà, y a pas de secret, je pense, c'est toujours organique. Après, on a engagé un petit peu les gens sur Twitter, qui est le seul réseau social vraiment au début qu'on utilisait. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Les gens invitaient d'autres gens, tu vois, il y avait déjà quand même des gens qui faisaient du no-code en France. Ça a été très progressif jusqu'au premier confinement, où il y a eu un premier pic. Forcément, enfin voilà, parce que nous, on a eu l'occasion, en fait, de faire beaucoup de webinars, donc toucher beaucoup de gens. Ces gens-là, ensuite, venaient dans la communauté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'inactifs, hein. Il y a beaucoup de curieux, je pourrais dire un petit peu plus les profils des gens, mais...
Ouais, c'est le problème d'une communauté dans les outils type Slack... Ou Discord, hein. Il y a aussi beaucoup d'observateurs qui prennent des infos et qui participent à leur manière et parfois de manière moins visible que d'autres, mais c'est aussi l'approche multifacette d'une communauté.
Non, c'est ça qui fait aussi la richesse, hein. Tu vois, on a beaucoup de porteurs de projets, donc des gens qui sont curieux du no-code pour avoir les outils pour faire leurs projets, mais il y a aussi beaucoup de product managers, de gros hackers, d'experts sur certains outils qui font de la presta. Des curieux, là par exemple, il y a quelques jours, il y a plein de gens de Betagouv, je sais pas si les gens connaissent
Betagouv. C'est le studio du gouvernement.
Voilà, exactement, qui ont rejoint le Slack, tu vois, ils sont arrivés à 4-5, c'est très drôle, et ils nous ont dit, nous en fait on le savait déjà, mais je pense que les gens ne savaient pas, qu'ils utilisaient des outils no-code dans certaines des startups d'État, etc. Donc c'était hyper intéressant. Et tu vois, et je pense qu'on va essayer même de faire plus de choses avec eux, c'est une super communauté. Donc voilà, donc c'est assez divers, mais le premier confinement nous a bien fait décoller. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, donc jusque-là, ça s'appelait le Slack de contournement. C'était la communauté, c'était notre communauté de la société contournement. Donc, tu vois, c'était un peu... Et ça a grossi. En fait, l'été dernier, on l'avait déjà en tête depuis quelques temps, on s'est dit, OK, ce qu'on va faire, c'est que pour que ça continue à grossir, mais qu'on puisse continuer aussi à bien le gérer, on va faire rentrer des gens dans l'équipe d'admin. On va le renommer. Pourquoi on s'est dit on va le renommer, c'est parce que pour que les gens puissent plus se l'emparer, c'est-à-dire que si c'est le Slack de contournement, ça reste le Slack d'une société, et forcément même tous les gens qui sont devenus nos potes et qui étaient hyper actifs, ça mettait une petite limite, tu vois, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas non plus envie de travailler pour nous gratuitement, ce que j'ai toujours compris. Donc on s'est dit, on a embarqué une dizaine de personnes, soit des gens qui étaient vraiment des membres de la première heure qui étaient actifs, soit des experts de l'écosystème no-code, un peu influents, on va dire. Et tous ensemble, on s'est dit, OK, maintenant, on est 10 admins, on change de nom, on partage la responsabilité. Et là, il y a eu un deuxième afflux plutôt de gens, notamment quand certains là, de ces nouveaux admins ont partagé sur leur LinkedIn, etc., tu vois, dans leur réseau. Et là, on a fait un boom. En gros, on était 600 avant l'été, on était 800 à la fin de l'été, on était 1600 à la fin du mois de septembre, et là, on est 2200, quoi.
Est-ce que c'est un peu un modèle conscient que vous avez adopté, puisque je crois que ça porte un nom, ça s'appelle le YPO en anglais, c'est Young President Organization, qui veut dire qu'en fait tu vas structurer ta communauté en ayant des ambassadeurs quasi admin, donc ce que tu as fait qui permet de décupler les efforts de communauté, puisque chaque YPO acteur sera vraiment investi d'une mission beaucoup plus visible pour eux, d'aller faire de la com autour de la communauté. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais lu et que tu as voulu implémenter, ou est-ce que vraiment ça s'est fait naturellement, ce move vers plus d'admin?
Non, il y avait une inspiration, hein, je vais rendre à César ce qui est à César. C'était le Slack de Gross Hacking France, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, le Slack où il y a le plus de gros hackers, et notamment Thibaut Dotto était un des... Eux, ils ont un système de maire, en fait, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà, donc il était maire de gros Hacking France pour le Sud, ou je ne sais pas, et c'est lui qui nous avait un petit peu partagé ce modèle, et donc on s'est un peu inspiré de ça. Et en fait, ça, on en avait parlé avec lui déjà assez tôt, quand on s'est rencontrés quasiment au début de contournement. Et puis ça a commencé à prendre du sens quand on a vu qu'il y avait beaucoup de monde, que ça nous prenait aussi nous beaucoup de temps à animer, à modérer et tout. Et donc en fait il y avait un truc un peu de... aussi pour nous, hein, on s'est dit en fait qu'est-ce qu'on gagne de cette communauté. C'est en toute honnêteté, nous on avait du mal à vendre à notre communauté. En fait on se sentait pas à l'aise avec ça, il y avait une espèce de... Donc on se disait ok, les gens de notre communauté ce sont des ambassadeurs, ce sont des gens avec qui on échange, qui on partage des choses mais qui ne sont pas des clients. Donc en fait ça nous prend pas mal de temps et d'énergie, donc autant partager cette responsabilité, le décupler, le redonner finalement un peu à la communauté, et voilà. Donc c'était un peu ça, il y avait cette inspiration de Gross Hacking France et puis cette idée de, bah, de redonner, que les gens s'en emparent vraiment, puisque c'est ce qui se passait un peu, mais avec ce frein que c'était pas vraiment qu'il y avait quand même ce truc de ça appartient à une société, quoi.
Non, c'est très clair. Et pour retourner sur le podcast, est-ce que tu penses que c'est aussi quelque chose qui peut être mis en place aussi pour ce format audio dans lequel, en fait, soit les admins, soit d'autres personnes pourraient également être les animateurs, les hosts des épisodes. Et je pense que c'est un modèle qui est aussi assez sympa. Ça se voit pas de plus en plus, mais ça commence à se voir pas mal. Notamment dans mon podcast Renoué Series, je commence à l'ouvrir à d'autres... créateurs de podcasts et animateurs qui viennent être hébergés chez Renoué Series, mais ça se voit aussi avec notamment Funding Crush, qui est un podcast créé sur le VC par Jonathan Userovici, qui est maintenant partenaire chez Eventures, et il a ouvert en fait son podcast à 5 ou 6 autres hosts. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est envisageable aussi pour contournement d'apporter de la diversité dans l'animation?
C'est une bonne question. Enfin, j'avais jamais pensé comme ça, mais j'ai une réponse. En fait, sans le vouloir, finalement, j'avais anticipé ce truc-là, je crois, pour pas avoir à me poser la question. En fait, je trouve que le podcast est hyper perso. Et en fait, aujourd'hui, je pourrais pas lâcher, tu vois, le podcast de contournement. Ça, pour le coup, je pourrais pas le... Parce que de toute façon, c'est moi qui l'ai fait depuis le début, tu vois ce que je veux dire. C'est, j'ai porté ce truc-là. Et puis, comme je dis, hein, vraiment, je le fais par passion, je me le suis approprié, donc c'est un peu chez moi, quoi. Donc ça, je me vois pas le partager ou dire maintenant ça s'appelle le podcast de No Code France. Par contre, ce qu'on a fait finalement, et qui est un peu dans cette direction là c'est qu'on a créé un média avec une des personnes, en fait avec Stan, donc qui est un expert glide très actif dans la communauté, qui est aussi un des admins de No Code France. On a créé un média qui s'appelle la Gazette du No Code, mais dont qui est sous le domaine No Code France, et donc qui est un peu le média associé. C'est Stan qui est un peu le lead de ce projet, et moi je donne un coup de main, et on produit du contenu. On va là cette semaine créer une chaîne YouTube qui va être associée, et donc dans ce cadre là il pourrait y avoir un podcast. Après on fait attention, finalement pour l'instant, tu vois, j'ai envie de dire finalement le cappuccino, tu vois, dans le groupe cappuccino qu'on a, et un peu les prémices peut-être d'un podcast, tu vois. Là avec un des formats que Stan fait, une petite gazette là sur le cappuccino, enfin qu'il a testé comme ça 2-3 fois, je lui ai dit mais franchement mec, tu pourrais en faire un podcast. Mais bon, il est très lucide aussi sur le fait, il m'a dit enfin attendons, tu vois, enfin il faut pas se précipiter non plus trop et se rajouter des charges de travail, on est tous déjà bien occupés. Donc voilà, on pourrait le faire dans ce cadre là mais moi effectivement j'aurais du mal à lâcher maintenant ce truc où j'ai mis, je trouve que c'est hyper personnel le podcast, quoi.
Oui, et puis tu incarnes quand même la communauté, c'est quand même tu as l'origine, donc c'est aussi ce que la communauté recherche, c'est aussi un nombre limité de figures emblématiques pour pouvoir quand même personnifier la communauté. Je pense que comme elle est encore jeune, c'est important qu'elle reste personnifiée, et le podcast reste le moyen le plus efficace pour personnifier une communauté, puisqu'il y a un reach important, et du coup c'est ce qui est le plus légitime, je pense, dans une communauté qui est en pleine croissance, d'avoir encore des points d'attache personnels.
Mais tu vois, après moi je pense que par contre il y a quelque chose à faire, hein. Et d'ailleurs Offcast est un peu, moi je trouve qu'il y a plein de nouvelles choses à
inventer. J'avais oublié cet exemple
et tu vois, donc finalement Offcast, tu vois, c'est un super exemple d'un podcast où, où le host n'est pas toujours le même. Il y a pas une ligne, il y a une ligne directrice, tu vois, mais il y a des interprétations un petit peu à chaque épisode. Donc non, moi je pense qu'il faut tester des choses et tout, tu vois. Mais c'est ça l'avantage du podcast aussi, que tu peux en avoir plusieurs, quoi. Tu vois, tu peux avoir ton podcast perso, une initiative. Enfin, je pense qu'encore une fois, tu montres bien cet exemple-là avec les différentes choses que tu fais. Donc
ouais. Non, mais c'est très clair. Juste petit aparté, tu parlais de Cappuccino tout à l'heure, juste pour expliquer ce que c'est une application créée par deux Français, mais ils sont basés à New York, et qui a pour objectif de créer des micro-communautés audio autour d'un format asynchrone. Chacun enregistre un petit morceau audio de 3 minutes tous les jours, et le lendemain, les petits morceaux sont mis bout à bout de manière historique pour composer le cappuccino du matin. Donc une boisson à prendre le matin de préférence, mais en fait à n'importe quel moment de la journée. Et voilà, donc il y a vraiment une volonté asynchrone de créer un engagement par l'audio dans une micro-communauté. Je sais pas si j'ai bien résumé, mais c'est ce que j'en pense.
Parfaitement. Non, moi je trouve ça génial, hein, franchement. C'est pas évident à animer, un peu comme tu me l'avais dit en privé. Et c'est vrai qu'on voit, du coup, on commence à avoir un peu des hauts et des bas, mais dans l'idée, moi je trouve ça absolument génial, quoi.
Tout à l'heure, tu disais que tu écoutais des podcasts depuis assez longtemps. Est-ce que y a certains podcasts que tu écoutes toujours, et comment toi-même tu as évolué dans dans ton écoute du podcast? Est-ce que tu as réduit tes choix? Est-ce que tu restes quand même en veille sur des nouveaux formats, des nouveaux hosts, des nouvelles histoires, des nouvelles thématiques? Comment tu te qualifierais comme auditeur de podcast? Comment tu as évolué et comment aujourd'hui tu te qualifies comme auditeur de podcast?
En fait, le premier podcast que j'ai écouté, finalement, c'était pas un podcast natif. C'était quand j'habitais à Londres en 2008. C'était Allô la planète. C'était une émission de... ça n'existe plus vraiment, mais une super émission de France Inter à l'époque, qui a bougé sur le Move, etc. Et donc j'ai écouté les replays, donc sous le format podcast, on va dire, mais c'était pas un podcast natif, comme on dit maintenant. Mais c'est ça qui m'a donné le goût d'écouter chaque semaine... parce que c'est en gros Allô la planète, qu'est-ce que c'est? C'est un mec, c'était à minuit avant, et qui parlait avec des gens autour du monde, quoi. Donc vraiment ce truc un peu talk show, le mec est tout seul et il prend des calls comme ça de gens qui sont un peu à travers le monde, et c'est juste incroyable. Et ça qui m'y a mis. Et puis après, j'écoute beaucoup le rendez-vous tech, j'écoute beaucoup de choses en fait autour de la tech pour faire de la veille. Et puis il y a quelques années, j'ai commencé avec vraiment l'émergence des podcasts. Hein. Je dirais pas que je suis en veille vraiment sur les... Surtout que maintenant, il y en a énormément. Enfin, c'est génial de faire partie de Podcast Makers pour voir toutes ces nouvelles initiatives. Mais le problème, c'est qu'il y en a tellement que c'est très difficile d'en découvrir des nouveaux. Mmh. En fait, j'en découvre un peu par sujet. C'est-à-dire que par exemple, cet été, on s'est posé la question de est-ce qu'on pourrait lever des fonds, des choses comme ça. Et donc j'ai écouté plein d'épisodes, quasiment tous à l'époque, de Equity 101 par exemple, d'Alexis. Et puis on s'est appelé, on a un peu discuté. Donc des fois je cherche des podcasts par thématique quand je m'intéresse à un nouveau sujet. Mais sinon j'écoute quand même globalement les mêmes. Et moi je suis absolument fan d'une petite maison de production qui s'appelle Qualité. Donc j'écoute quasiment tout ce qu'ils font, assez religieusement. Et il y a des choses très diverses, il y a des choses sur... Il y a des choses un peu en mode talk show. Il y avait le feu Studio 404 que probablement beaucoup de gens connaissent. Et puis après, ils font plein de nouveaux formats, ils innovent. Donc j'écoute beaucoup des choses qu'ils font eux. Après, j'ai une liste. Enfin, je ne vais pas faire la liste que j'ai dans Podcast Addict, mais j'ai pas mal de choses que je suis comme ça de temps en temps.
Donc c'est fidèle et plutôt tech.
Mais je suis un peu j'aime bien les trucs inspirants, j'écoute forcément un peu Génération Do It Yourself, mais j'écoute que les épisodes où la personne va a priori m'intéresser, ce qui peut être une erreur, mais j'ai un peu du mal avec les grands patrons, il y a certains invités qui me reviennent pas trop, des fois c'est dommage, peut-être c'est des épisodes super. J'ai Nouvelle École, j'ai quasiment tout écouté quand j'ai découvert, j'ai découvert qu'on s'était déjà, il avait déjà arrêté d'en publier. Je trouvais ça génial. J'aime bien les trucs en fait où il y a un invité inspirant, souvent autour de la tech, mais où l'entrepreneuriat, c'est un peu cliché je pense de dire ça, mais
C'est ta consommation et c'est ton écoute, donc c'est honnête et authentique. Et justement tu disais que il y a de plus en plus de podcasts, et c'est clair, c'est un constat unanime. Et comment tu vois toi l'écosystème du podcast en France? Est-ce que tu penses que ça va aller dans une direction? Est-ce que tu as une conviction? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur sur comment tu vois la croissance de ce format audio en France et peut-être les freins et les opportunités.
Bah écoute, en fait moi je tu vois finalement le côté un peu méta du podcast, je le suis un petit peu par Podcast Makers, parce que je vois dans la communauté. Je lis pas beaucoup forcément à côté de ça. J'aime bien ouais, tout ce truc autour de la passion economy et tout, quoi. Enfin, je trouve ça tout ça est très intéressant. Moi, je pense que j'aime bien même si j'en écoute pas tant que ça, les podcasts innovants, les podcasts natifs, vraiment, tu vois, cette émergence-là, en fait. Parce que finalement, tu vois, les interviews et tout, c'est ce que je fais, hein, c'est ce que j'aime bien aussi écouter. Mais c'est pas là où il y a le plus d'innovation. Donc, je serai un peu plus à l'affût voilà, d'innovation. Ça m'intéresse de voir ce que les gens vraiment créatifs, en fait, font avec ce format audio. Je trouve qu'il y a un vrai. Enfin, bon, de toute façon, même les investisseurs se ruent un peu sur tout ce qui est audio en ce moment. Mais voilà, moi, ça correspond à. Tu vois, j'écoute beaucoup de podcasts. Je sais plus où je disais ça il y a pas longtemps, mais je me suis mis à écouter quand même beaucoup de podcasts aussi quand je me suis mis à courir plus sérieusement il y a quelques années. Et puis dans les transports, voilà. Donc là, par exemple, j'en écoute moins parce qu'il y a moins de temps de transport, voire pas du tout. Je cours moins aussi, mais certains, je suis toujours. Franchement, au niveau de la France, je pourrais pas dire vraiment. Pour le coup, j'écoute aucun podcast en anglais.
Tu es fidèle
Même.
à ta vision domestique du
Ouais, mais
format.
je sais pas pourquoi, tu vois, je sais pas, ça me, je me, bah du coup, je me sens moins proche peut-être des hosts ou des invités. J'écoute un petit peu juste pour la veille un des podcasts no code les plus connus, mais sinon, ouais, puis ouais, il y en a déjà. En fait, il y en a tellement, c'est ça, il y a tellement de trucs chouettes, tu vois. C'est un peu comme les articles, tu vois, on met tous plein d'articles dans notre pocket ou de côté, tu vois, dans nos favoris, puis on les lit jamais. Et les podcasts, j'ai l'impression que je fais un peu pareil, donc maintenant j'essaye de le moins le faire. Et puis, ouais, je donne sa chance à des podcasts de temps en temps, mais voilà.
Et tu parlais de ta recherche de podcasts inspirants, c'est notamment ce que tu fais avec Contournement, avec les deux formats, le format plutôt fonctionnel et le format plutôt inspirant. Est-ce que il y a une ou un guest un ou deux ou trois que tu souhaiterais particulièrement recevoir dans Contournement, et pour l'instant ça ne s'est pas fait pour tant de raisons, ou est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur voilà sur un peu l'invité ultime que tu aimerais accueillir sur Contournement?
Ouais,
C'est difficile d'être clivant comme ça, mais peut-être justement de
ouais.
mettre un
Non, mais
petit
c'est
groupe
intéressant
d'invités.
parce que c'est la seule question que j'avais un petit peu réfléchi en amont, que tu vois, quand j'ai écouté quelques épisodes d'Offcast, où je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je répondrais à ça? En fait, le truc, c'est que pour notre podcast, finalement, tu vois, comme je disais tout à l'heure, en fait, nous, finalement, c'est un peu des gens, je sais pas, j'allais dire des gens lambda, c'est un peu nul de dire ça, je sais pas, des gens, mais tu vois, pas des gens connus, en fait, finalement, qui m'intéressent. Tu vois, moi, j'ai envie d'avoir des beaux projets, tu vois, des gens qui n'étaient pas du tout destinés à ça, qui ont lancé quelque chose qui marche bien, qui est cool, qui est inspirant, tu vois. C'est un peu le parcours. Donc c'est pas bah, au début du podcast, tu vois, comme je disais, hein, j'ai pu interviewer quelques gens un peu connus, un peu
Ouais, pour la
dans cet
visibilité.
écosystème, voilà. Et puis c'est les premiers gens auxquels j'ai pensé. Puis maintenant, tu vois, je suis tout le temps là, la personne que j'ai invitée tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est dans notre communauté depuis longtemps, mais je me suis pas dit que j'allais l'interviewer jusqu'à ce que je vois sur LinkedIn qu'il a changé son poste en un intitulé qui est No Code Engineer. Le mec avant était Product Manager. Et quand il est devenu no-code engineer, je me suis dit, ok, il faut qu'on en parle, parce que ça veut dire que dans sa boîte, il se passe quelque chose, quoi. Tu vois, donc c'est pas des gens connus. Après, nous, comme je disais tout à l'heure, on a la barrière de la langue. Si on faisait en anglais, bah, il y a quelqu'un que j'aimerais bien recevoir, c'est le patron de Webflow, Vlad Magdaline, qui est quelqu'un d'hyper inspirant. Enfin, c'est pas du tout un CEO de la Silicon Valley traditionnel, je dirais, sans être quelqu'un de farfelu, c'est juste quelqu'un de hyper nice à qui j'ai pu parler 5 minutes l'année dernière à la NoCode Conf. Mais voilà, lui, j'aimerais bien m'entretenir avec lui. Voilà, mais sinon, bah après, tu vois, après, si j'élargissais un peu, une personne que j'aimerais bien, pareil, toujours avec l'anglais, mais c'est Tim Berners-Lee, l'inventeur du web. Voilà, ça fait partie des gens avec qui j'aimerais bien m'entretenir. Je sais pas si ça serait tant que ça intéressant pour le podcast. Par contre, c'est moi, tu vois, si j'avais, tu vois, le fait de faire ce podcast me donnait accès à des gens un peu que moi, à qui j'aurais voulu parler depuis toujours. Ça, c'est peut-être une personne à qui j'aimerais bien parler, quoi.
Ouais, non, c'est très clair. Et j'aimerais finalement qu'on revienne un tout petit peu pour la fin de cet épisode sur les formations que tu crées actuellement. Comment tu fais le choix des outils sur lesquels vous allez construire des formations? Et est-ce que tu peux nous citer quelques outils actuels sur lesquels vous formez pour qu'on puisse avoir un peu une vue sur les tendances et l'émergence de nouveaux outils ou sur l'installation d'outils qui existent depuis un petit moment mais qui sont de plus en plus utilisés et qui ont une traction de plus en plus importante. Donc voilà, nous parler un peu de tes formations actuelles et pourquoi ces choix.
Il y a deux volets, je dirais, dans ce qu'on fait. Il y en a un sur lequel on va plus. Il y a le côté création de produits, tu vois, c'est-à-dire je veux faire une plateforme de mise en relation, faire un clone de Airbnb, quelque chose comme ça. Donc ça, il y a plein d'outils no-code qui sont dédiés à ça. Nous, on n'a qu'une seule formation là-dessus, qui est une formation, un outil qui s'appelle Adalo, qui est un outil extrêmement prometteur, encore assez jeune, qui permet de faire des applications mobiles en drag and drop, un peu comme Wix, hein, on va dire, mais vraiment faire des applis mobiles que tu déploies sur les stores. Vraiment, c'est hyper simplifié. Donc ça, on a une formation là-dessus. Mais nous, l'angle finalement qu'on creuse, qu'on a décidé de plus enfoncer, j'ai envie de dire, c'est celui de la productivité, à défaut d'un meilleur terme. Ce sont des outils d'organisation, d'automatisation. Donc on a une formation à Zapier, qui est un outil d'automatisation, et un outil à Airtable, qui est un outil de gestion de données. Si je peux donner un exemple, par exemple pour les podcasts, on pourrait dans Airtable avoir la liste de tous ces épisodes de podcast, et puis déclencher automatiquement, avec Zapier, quand on ajoute un nouvel épisode, un tweet, un post sur Facebook, la génération de la vignette, par exemple. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Nous, on est vraiment dans cette optique. On n'est que deux à faire contournement. On a besoin que tout soit extrêmement efficace, efficient plutôt. Donc on automatise tout. On n'a pas de personne qui fait la compta. Enfin, on a un comptable, mais je veux dire, tout est automatisé. Dès qu'on reçoit une facture, dès qu'on vend une formation, tout est généré automatiquement. Tout notre onboarding se fait automatiquement. Et on aimerait partager ça aux gens, parce qu'on pense que c'est l'occasion soit de travailler moins, soit travailler mieux, pas faire des tâches répétitives, tu vois, il y a plein de trucs, ou mieux s'organiser. Et donc dans cette lignée-là, on sort demain officiellement une formation à Notion, donc que les gens peut-être de Podcast Makers connaissent, puisque tu l'utilises pour organiser un petit peu le contenu, ou si d'autres gens, peut-être, ça commence à devenir assez populaire, c'est un outil... J'allais dire de prise de notes, ça serait très réducteur, mais qui permet d'organiser de la donnée. Je ne sais pas comment tu définirais Notion, ça. Tiens, je suis curieux d'avoir ta définition.
Il y a tellement de use case possibles, enfin de cas d'usage possibles, c'est hyper compliqué. Ça peut être pour des choses qui m'intéressent un peu plus, ça peut être de la gestion de deal flow quand tu veux investir, mais ça peut être, comme tu dis, de la prise de notes, ça peut être aussi la création de landing page par exemple, pour faire des événements où tu publies... ta page Notion et ça fait office de landing page où tu vois les speakers, le programme et tu peux t'inscrire. Enfin, il y a tellement de use cases possibles, c'est difficile de le définir.
Ils en font beaucoup la promotion pour les étudiants aussi, par exemple, tu vois, organiser ses cours. Il y a un module où tu peux faire des formules mathématiques. Puis il y a toute une partie base de données où tu vas pouvoir organiser tes données, faire des vues différentes. Enfin, c'est un outil hyper riche, donc on pourrait faire tout un épisode là-dessus. D'ailleurs, notre épisode sur Notion est un de ceux qui marchent le mieux dans le podcast. C'était un épisode super parce qu'avec Jérémy, qu'on avait interviewé, on a aussi beaucoup parlé de productivité, de comment s'organiser, de toutes ces notions-là, enfin, tu vois, un peu comment on peut mieux travailler pour finalement peut-être travailler moins ou s'alléger un peu de toute cette charge mentale souvent qu'on accumule. Donc nous, c'est un peu l'angle qu'on prend plutôt d'aller faire ces outils-là. On prévoit une formation, on fait des formations en fait en partenariat aussi, en collaboration, on va dire plutôt. Par exemple, on prévoit avec Ivan Poussier de faire une formation à Calendly. Tu vois, c'est pas vraiment un outil no-code en tant que tel, mais c'est un outil qui est tellement génial. Enfin, nous, ça nous a changé la vie, quoi. Tu vois, je veux dire, moi, ça fait longtemps que j'ai pas échangé un email avec des gens pour dire « Ah, est-ce que t'es dispo mardi à 17h ?»« Non, désolé, finalement, mercredi. » Non, tu vois, c'est hop, je t'envoie un lien, tu réserves quand tu veux, et moi, je sais que ça sera toujours dans une plage horaire qui m'arrange, quoi. Donc, voilà, un peu c'est toutes ces notions-là. Donc, on va vraiment vers ça. C'est des modules asynchrones, nos formations. Donc à suivre, c'est des vidéos qu'on essaie de faire un peu sympa, il y a du texte, il y a surtout beaucoup d'exercices, c'est vraiment par la pratique. Quand je dis des exercices, c'est pas des trucs comme à l'école, hein. C'est vraiment des cas d'usage, tu vois, avec Notion. On va
la classe prépa contournement.
Ouais, voilà, mais on a une approche un peu, moi je dis des fois un peu scolaire, tu vois, c'est pas le... Mais moi j'aime bien, tu vois, on apprend, on essaie de faire que ça soit fun, mais tu vois, t'as des exercices, t'as des trucs, tu mets en pratique, c'est pas juste des vidéos que tu regardes comme ça, sans fin. Elles sont très découpées, on tient à ce truc par la pratique pour que ce soit concret, et on essaie de prendre des exemples qui sont à la fois pédagogiques pour utiliser les fonctionnalités qu'on veut mettre en avant à ce moment-là de la formation, mais aussi que ça serve, quoi. Tu vois, il y a dans notre formation Airtable, il y a un exemple, c'est de la compta, c'est basique, hein, mais tu vois, qui peut, franchement, qui est, à mon avis, largement suffisante pour plein de freelances. La gestion de projet, évidemment, tu vois, des trucs comme ça, enfin, c'est de... que ça serve, quoi. Tu,
très versatile,
tu mets en pratique. Ouais.
Et
c'est le propre de ces outils, hein, d'ailleurs.
Ouais, ouais, voilà, exactement. Bah, Notion, c'est un des meilleurs exemples de versatilité, justement, qui permet. Enfin, c'est une vraie plateforme, quoi, dans le sens où tu peux construire ce que tu veux avec l'outil Notion, peu importe si c'est un usage
tellement
personnel ou professionnel.
Tellement que c'en est presque difficile d'expliquer justement aux gens quel est l'intérêt pour eux. Donc c'est pour ça qu'il faut forcément passer par des cas d'usage.
Ouais. Et tes formations aussi, tu as différents niveaux de mémoire. Hein. C'est pas forcément très sophistiqué ou au contraire très accessible. Il y a différents
paliers.
Nous,
on aime beaucoup s'adresser aux débutants. Vraiment, je pense que c'est là où on est très bon et mon associé particulièrement. Donc on a un peu un délire autour des ceintures, un peu comme dans les arts martiaux. Donc formation ceinture jaune. Donc là, c'est vraiment pour les débutants. Donc par exemple, nos formations Notion, c'est que pour les ceintures jaunes pour l'instant. Et ensuite, là, on travaille sur la formation ceinture rouge, plus avancée. Et en fait, on découpe parce que comme ça, bah, des gens qui connaissent déjà un petit peu Notion, ils vont pouvoir direct prendre la ceinture rouge et là accéder à des choses vraiment complexes, les bases de données relationnelles, des formules, choses comme ça, en sautant les étapes. Alors que des gens qui... Il y a des gens aussi, à mon avis, juste utiliser Notion de manière très basique, mais en suivant la formation, donc en gagnant du temps, ne pas avoir à découvrir soi-même, faire des erreurs et tout, ça peut très bien suffire. Et déjà, tu as fait un progrès, quoi.
Ah non, c'est très clair. Non, bah, en tout cas, merci beaucoup, Alex, pour ton temps. C'était très clair. On a compris la raison pour laquelle tu souhaites démocratiser le no-code, l'ampleur que le no-code peut avoir et tout l'intérêt que cette tech... Enfin, que cette low-tech ou no-tech, je ne sais pas comment le définir, peut avoir pour des usages professionnels et personnels aussi. Et bien entendu, on a tout à fait compris l'intérêt du podcast et en quoi le podcast est ton précaré, j'ai envie de dire. est-ce que tu peux nous dire, si on souhaite te contacter, comment faire, quel est le meilleur moyen pour discuter avec toi si on est intéressé par les sujets no-code, de formation ou d'échange avec la communauté?
Bah, les gens qui sont intéressés par le no-code, vraiment, j'invite à venir sur no-code France, à venir sur le Slack. Tu mettras de toute façon les notes.
Ouais.
Sinon, moi, je suis accessible directement sur LinkedIn. Voilà, c'est un moyen facile, je pense, de me contacter ou par email. Hein. Moi, je réponds à tous les emails, de toute façon. Alex@contournement.io. Sur Twitter, on n'est pas hyper présent, mais si on essaye de partager un petit peu des choses. Twitter, en fait, on est un peu dans la bulle du no-code, quoi. C'est-à-dire c'est moins là où on va contacter des gens et être contacté, mais on est dans notre petit écosystème, et notamment avec les un peu plus internationales. Voilà, donc, mais sinon, et puis le... Ouais, non, il n'y a pas de moyen de contacter par le podcast. Quelqu'un a déjà utilisé la fonctionnalité de Encore, là, des messages
des
auditeurs?
Ouais. Non, j'ai jamais utilisé, non.
J'ai jamais vu quelqu'un l'utiliser non plus, mais je sais pas, peut-être un jour, il faudra essayer de... Voilà, ça c'est un peu une innovation qu'on pourrait faire. Mais non, et si les auditeurs connaissent des gens qui seraient inspirants, qui ont fait des choses en no-code, diverses et variées, vraiment, dites-le moi avec plaisir, parce que je cherche tout le temps des nouveaux invités... Voilà. Et puis il faut tenir la cadence, je me suis un peu engagé, entre guillemets, en tout cas personnellement, à publier un épisode par semaine, donc
il faut un rythme soutenu. Mais en même temps, beaucoup d'histoires à raconter, donc il y a beaucoup de sujets possibles et il y a une richesse à mettre en avant.
Exactement, comme ça permet de ne pas être trop élitiste non plus et de trop se poser de questions de « oui, est-ce que j'invite cette personne, est-ce que ça vaut le coup de faire un épisode ou pas ?»
Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021? Est-ce que tu as un objectif particulier? Est-ce que tu peux nous dire lequel il est sur 2021?
J'avoue que ça va pas être par rapport au podcast. Parce que comme je disais, hein, je regarde pas beaucoup les chiffres, même si évidemment je les regarde. Mais de vendre des formations, hein, je vais être très basique. Hein, mais c'est ça qui va nous assurer aussi notre indépendance, de pouvoir faire le podcast et plein d'autres initiatives en toute... indépendance et sérénité, quoi.
Ok, alors rejoignez tous le Slack No Code France et écoutez les podcasts Contournement pour contribuer à l'indépendance de la démocratisation du no code en France. Merci beaucoup, Alex, pour ton temps.
Merci beaucoup à toi.
C'était très cool, et puis à très vite alors.
Merci, à bientôt, salut.
Salut, ciao.